Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Et vous, quelle journée particulière choisiriez-vous ? Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Bourg. Bonjour Dominique Bourg.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier. Sur France Inter.
Dominique Bourg, vous êtes philosophe, professeur honoraire de l'Université de Lausanne. Vous êtes un philosophe engagé,
oui.
Très engagé.
Absolument.
Engagé dans le combat écologique. Depuis combien d'années vous...
Alors, ça peut remonter très très loin parce que ma première forme d'engagement, c'est lorsque j'étais tout jeune étudiant. Et là, j'étais abonné à une revue qui s'appelait tout d'abord « Survivre ». Ensuite, Survivre et Vivre. Et le mouvement Survivre, c'est un mouvement qui avait été fondé tout au début des années 70, en 70, je crois, par de jeunes mathématiciens. Et la section française était prise en charge par Alexandre Grothendieck, médaille Fields, et puis figure en fait extrêmement originale.
Alors, Dominique Bourg, vous avez choisi comme journée particulière un jour de la fin du mois d'avril 2019. Ce jour-là, vous arriviez pour la première fois dans une ferme philosophique.
C'est une marche lente. Bon, là, avec ces 4 chèvres, on ne s'en rend pas compte. Mais un troupeau de moutons, c'est un flot, c'est un flux, quelque chose qui s'écoule. Parce que les bêtes savent tout. Elles y sont passées l'année d'avant, elles y sont passées 2 ans avant. Et les filles font ce que font leurs mères. Voilà, donc on est sur, j'allais dire, un fait culturel. C'est là que je vais me faire injurier, parce que le sang est beau, culture, mais si, justement. Il y a des choses qu'ils savent, des choses qu'ils ont appris, et des choses qui se transmettent. C'est l'histoire classique du berger sur le mont Lozère ou sur les Goales qui est un peu perdu, et qui, voyant bien que le soir arrive, ou qu'il faut continuer le chemin, ne sait plus où aller à cause de la densité du brouillard, et il met le troupeau devant lui, et il suit le troupeau. Et le troupeau, lui, dans le brouillard, ne se perdra pas. Voilà. Donc on a des bêtes qui savent les lieux et qui savent aussi les dates. Le 15 octobre, vous ne ferez pas remonter les brebis à la montagne. Par contre, le 15 juin, vous ne les empêcherez pas d'y monter. Voilà.
Extraordinaire, vous dites.
Ah oui, c'est complètement extraordinaire, magnifique.
Magnifique. Donc c'est un extrait d'un reportage de Julie Gacon qui a été diffusé sur France Culture et je trouvais justement que ça avait du sens de commencer l'émission avec vous, Dominique Bourg, en parlant de faits culturels pour les brebis, parce que cette ferme philosophique où vous arrivez donc à la fin du mois d'avril 2019, il y a un berger qui est là.
Un berger très atypique, on va en parler.
On va en parler et qui va vous raconter des histoires de brebis.
Complètement.
Alors, qui est ce berger déjà ?
Alors, le berger, c'est Guilhem Roux, sa compagne Élise. Alors, c'est pas quelqu'un, si vous voulez, dont le parcours de vie l'amenait directement à être berger. Hein. C'est quelqu'un qui a fait tout d'abord une grande école de maths et de statistiques, hein, l'ETSAE, qui a ensuite fait des études de philo et d'économie, qui a fini par faire et soutenir une thèse en philosophie économique. Et tout ça l'a amené à être berger. Donc, le parcours n'est pas totalement standard. Et il a créé avec sa compagne cette ferme philosophique, on en parlera peut-être un petit peu, mais là du coup c'est amusant parce qu'on est justement en face du lieu où a été tournée la séquence avec ce berger-là, c'est-à-dire qu'on est en contrebas de la corniche des Cévennes et de sa maison, on voit le mont Aigoual et le Cosméjean. Et là, justement, c'est amusant parce qu'en fait, il a fait faire à ses brebis ce qu'il vient de nous dire, l'ami berger, qu'elles ne font pas. Il est tout jeune berger à l'époque.
Oui, donc inexpérimenté.
Très inexpérimenté. Cela dit, lui, il a un élevage permacole. C'est-à-dire, le principe, c'est que les brebis pèsent peu de temps au même endroit.
D'accord.
Pour qu'elles aient, si vous voulez, un impact écologique le plus faible possible. Et c'est aussi une façon de lutter contre les parasites. Ils n'ont pas le temps de s'installer et paf, comme la tique de Fun School, de tomber sur les brebis. Et là, on est au mois de novembre, on
ça,
est en altitude.
Ça, c'est l'histoire
qu'il
vous raconte.
Oui, ça, c'est l'histoire qu'il me raconte. On est donc au mois de novembre, le sol est gelé et d'un seul coup, la neige se met à tomber, mais avec de gros flocons drus. Et là, notre ami berger, Guilhem, panique. Les brebis aussi, et les brebis se mettent en rond avec les têtes en quinconce. Son chien, alors jeune, essaie de faire son boulot de chien de berger, il essaie de casser la formation organisée par les brebis pour effectivement qu'elles repartent à la ferme. Elles ne veulent rien entendre.
Elles bougent pas.
Le chien, lui, devient dépressif. Hein. c'est très dur pour lui. Et puis là, notre ami Guilhem panique. Et franchement, c'est pas quelqu'un en soi de très mystique, Guilhem. Hein. Il a fait des études hard, mécanisme, même s'il est très critique par rapport au mécanisme. Mais bon, il n'est pas mystique. Mais d'un seul coup, il sort de sa panique en priant et en implorant les brebis. Et magique, les brebis l'entendent, c'est-à-dire les meneuses. Dans chaque troupeau, il y a un certain nombre de brebis qui ont une relation assez différente avec le berger, très proche, qui viennent solliciter son affection. Et alors moi-même, quand je suis arrivé, cette fameuse journée particulière, quand je suis arrivé dans le troupeau, alors celle que j'ai osé nommer les faillottes, et là je me suis fait vraiment sermonner par Guilhem, je voulais absolument pas entendre ce mot-là, eh bien en fait, ses amies brebis, pourrait-on dire, elles sont venues vers moi, elles sont venues se faire caresser, elles sont venues me renifler, etc. Elles cherchaient le contact de façon très manifeste. Alors ce sont elles qui sont les meneuses, qui ont casser le cercle.
Alors,
et les autres les ont suivis.
Alors qu'est-ce que vous pensez, Dominique Bourg, que les brebis, les meneuses, ont entendu la prière de ce berger philosophe?
Écoutez, manifestement, elles ont entendu quelque chose. Elles ont compris, en fait, ce qui se passait. Elles ont compris son sentiment de désarroi. Et elles ont pris le lead.
Et donc, le troupeau est redescendu.
Et le troupeau est redescendu. Alors, c'est pas le brouillard, là. Mais en fait, et le berger, et le chien, l'un et l'autre, relativement penauds, ont suivi les brebis conduites par les meneuses qui, en fait, elles ont quand même, c'est quand même plein fou quand même, elles ont surmonté aussi leur sentiment de panique par fidélité, par relation avec le berger. Mais je peux pas expliquer plus. Et elles ont rigoureusement fait ce qu'ils souhaitaient et ce que la situation imposait. C'est-à-dire c'était très dangereux qu'elles restent ensuite prises par la neige parce que là, ils pouvaient perdre le troupeau. On était quand même à 1200 mètres d'altitude, hein.
Formidable histoire. Alors en 2019, cette même année où vous allez dans cette ferme philosophique, Dominique Bourg, Juan Gilberto disparaissait.
O pato vinha cantando alegremente, quim, quim, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba, o ganso. Gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quen, 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 quen. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba, o ganso. Gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quen, 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 quen,
Dominique Bourg, vous avez reconnu le canard
de
Jean Gilberto.
Le morceau et le musicien. Oui.
Il y avait une deuxième histoire que ce berger vous a racontée quand vous êtes allé le voir.
Oui, qui arrive la même année, c'est-à-dire il est encore jeune berger, il n'est pas encore complètement aguerri. Son chien, manifestement, vous allez voir que l'histoire est un peu plus que lui, alors qu'il est tout jeune. Si vous voulez, un chien de berger, ça se dresse parce que son instinct est rigoureusement à l'inverse de ce qu'il va devoir faire comme chien de berger. Et c'est un vrai boulot. Et le chien le prend comme un boulot. Je ne dis pas qu'il est syndiqué CGT, mais il le prend comme un boulot. Il en est très, très fier. C'est sa raison de vivre. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, Guilhem fait une bêtise. Il connaissait encore assez mal la configuration des lieux. Et l'ensemble du troupeau, là encore, c'est pas le troupeau d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus petit, c'est une vingtaine de brebis, se trouve à l'aplomb d'une falaise.
Ouais.
Et évidemment, vous connaissez le côté un peu grégaire des animaux.
Bien sûr.
Donc c'est effectivement, alors lui, à nouveau, panique, mais là, le chien,
stop.
Ce jour-là,
ouais.
C'est vraiment affirmé. Et en fait, très délicatement, parce que lui aussi risquait gros, très délicatement, il a réussi à éloigner le troupeau de l'aplomb de la falaise, en passant derrière. Donc, il faut pas qu'il panique les animaux. En général, il est là, il est tout fou, il les pousse, etc. Donc, les brebis ont des mouvements brusques et il lui-même organise ces mouvements. Là, c'est l'inverse. Le moindre mouvement brusque et le troupeau et lui étaient morts. Et il a très délicatement su éloigner le troupeau de l'abîme et sauver le troupeau. Et sans que le berger, pantois, fasse quelque chose. C'est le chien tout seul.
Qui a fait quelque chose.
Oui.
Alors c'est intéressant, Dominique Bourg, que vous racontiez ces histoires parce que ça vous a conforté certainement dans qu'une nouvelle relation entre l'animal et l'homme, une nouvelle relation au vivant était en train d'émerger dans nos sociétés. C'est ça que vous avez pensé?
Ah, totalement. Enfin, en plus avec un livre qui paraîtra là dans un an, coécrit avec ma collègue et amie Sophie Svatton, on met vraiment ça en avant, si vous voulez. C'est-à-dire que on part de ce qu'a été le mécanisme, c'est-à-dire cette révolution dans la pensée fin 16e, 17e siècle, dont le héros par excellence avec les deux orthographes possibles et Descartes, et évidemment sa théorie des animaux-machines, donc des animaux réduits à un pur mécanisme, sans intériorité, sans représentation, sans la moindre intelligence, qui était une forme de folie, et d'ailleurs qui a suscité toutes sortes de réactions, mais qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et en fait, ce sont, je dirais presque, les élevages industriels qui ont créé l'animal-machine. Descartes l'a pensé, mais c'est les dernières décennies qu'on l'a vraiment réalisé avec l'industrialisation de l'élevage. Alors là, avec ces histoires, on est complètement au rebours de tout ça. Alors cela dit, dans la deuxième moitié du XXe siècle, ce qu'on appelle l'éthologie, donc l'étude scientifique du comportement des animaux, a mis en évidence l'intériorité animale, la représentation, les facultés représentationnelles des animaux, leurs facultés intellectuelles, et le fait, effectivement, ça a été dit par notre premier berger, qu'ils disposent d'une culture. Alors, cela dit, cette histoire de cette différence nature-culture, elle est assez mal partie, parce que dans toutes les espèces animales, même les oiseaux, dans leur façon de chanter, dans leur façon de faire leur nid, la même espèce, vous allez voir que les nids peuvent varier géographiquement, de même les modalités du chant peuvent varier géographiquement. Il n'y a rien de plus, si vous voulez, naturel que la diversité. Et donc, la diversité intraspécifique est plutôt une caractéristique du vivant, de façon générale. Mais ce fameux vivant, on le redécouvre aujourd'hui.
On le redécouvre. Alors, il y a un homme, un anthropologue que vous admirez beaucoup et que, évidemment, vous connaissez, c'est Philippe Descola, qui a théorisé ça, qui a théorisé cette idée de l'intériorité des animaux. On l'écoute.
Le matin, lorsque les atchoirs se réveillent très tôt, bien avant le lever du jour, ils se réunissent autour des feux et ils commentent les rêves de la nuit. Et selon la nature des images oniriques, ils vont faire des prédictions quant aux activités de la journée. Mais il y avait un autre type de rêve, tout à fait différent. C'était des rêves dans lesquels ils disaient qu'ils voyaient, par exemple, un singe laineux ou un singe capucin, qui leur transmettait un message. Et ce singe leur apparaissait sous forme humaine. Et il leur disait, bon, demain je serai à tel endroit, je ferai telle chose. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce qu'il a une forme humaine, ce singe capucin? Il dit, parce qu'il se voit comme un homme, donc il nous apparaît à nous comme un homme, puisque finalement, son corps, ça n'est qu'un vêtement. C'est un vêtement qu'il endosse, c'est donc son intériorité qui domine, et son intériorité, elle était identique à la nôtre. Et c'est dans des circonstances comme cela que je me suis rendu compte qu'au fond, le rapport qu'ils qu'ils avaient avec les animaux et les plantes, c'était pas un rapport à des objets sacrés, c'était vraiment un rapport de compagnonnage, c'était un rapport avec des partenaires sociaux. Et cela veut dire que les frontières de la société ne se bornent pas aux humains, mais que la société, ce que nous appelons la société, là aussi un concept au fond relativement récent, ce sont des collectifs d'humains et de non-humains qui sont en interaction, quelquefois pacifiques, quelquefois hostiles, et pour lesquels la description d'un monde en termes d'une opposition entre des phénomènes naturels d'un côté, des phénomènes culturels et sociaux de l'autre, n'a littéralement aucun sens.
Dominique Bourg.
Magnifique. Hein. Alors, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point l'anthropologie, aujourd'hui, depuis Lévi-Strauss, mais plus encore avec les années 70, est devenue la discipline qui est la discipline clé pour nous recomprendre et pour nous reconstruire.
Et nous repenser.
Et nous repenser complètement. Et ça continue aujourd'hui. C'est très important. Là, on vient d'entendre Philippe Descola. On aurait pu entendre quelqu'un comme Edward O'Conn avec son magnifique livre « Comment les forêts pensent ». Par exemple, il montre comment, si vous voulez, une relation entre un chasseur et puis là aussi, à nouveau, un singe laineux et comment l'échange des signes entre l'un et l'autre, si vous voulez, c'est-à-dire que si on revient philosophiquement, ce qui compose chacun de nous, c'est toujours une relation. C'est-à-dire que, en fait, le « je tu », comme disait mon vieux maître philosophe Francis Jacques, le « je tu », la relation « je tu » précède et le « je » et le « tu ». C'est la relation du « je tu » qui nous instaure chacun dans notre personnalité, dans notre individualité. C'est-à-dire qu'en fait, je n'hérite pas. C'est un héritage qui me constitue. Et là, dans la manière dont, par exemple, Edward O'Conn décrit la relation entre le chasseur et le singe laineux, il y a un chasseur qui va faire un bruit, et le bruit, si vous voulez, de la hache sur le palmier qu'il est en train d'abattre, ouais. Et le fracas du palmier sont des signes, des indices que le singe va décrypter. Le chasseur va, en l'effrayant, le faire changer de perchoir, pour pouvoir le voir, pour pouvoir le viser. Et ce qui est intéressant, c'est que entre le chassé et le chasseur, vous avez un jeu à deux, comme en ce moment, entre vous et moi.
Ouais.
C'est-à-dire que la capacité qu'ont les êtres humains à entrer en relation avec les autres espèces et avec certains individus, à tel point qu'à un moment donné, il est quoi le chasseur? Il est le flux de représentation qu'il habite.
Ouais, d'accord.
Et par rapport auquel le singe est fondamental. Donc, si vous voulez, la relation de l'humain au non-humain, elle peut aussi contribuer à nous constituer. Et quand on parlait tout à l'heure de mon ami Guilhem et de ses brebis.
Notre berger philosophe.
Notre berger philosophe, il y a des moments où son propre moi, si vous voulez, se construit dans la relation avec ses brebis.
Alors, c'est intéressant parce que là, vous parlez des recherches en éthologie, mais il se trouve que ces dernières années, et en anthropologie, bien sûr, mais ces dernières années, on a commencé à élaborer aussi une nouvelle conception du végétal.
Ah, complètement.
Ce sont des nouvelles découvertes. Je vous propose d'abord d'écouter un son.
Les plantes, évidemment, ont un champ énergétique et nous avons oublié que tout objet a un champ énergétique. Toute pensée est énergie. Certaines personnes vont vous dire qu'elles sont en accord avec ce qu'on appelle la main verte. Elles sont en accord avec telle sorte de fleur plutôt que telle autre. Moi, c'est les roses. Je garde des roses très 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 longtemps. J'ai une espèce de communion avec les roses. C'est très facile. Elles me parlent, je leur parle. C'est de manière imperceptible, bien sûr, mais j'ai derrière des roses qui ont 15 jours et elles sont toujours là. Tout a un champ vibratoire et tout vit, une plante vit, un animal vit et vous correspond, vous parle, vous transmettez votre champ énergétique à la plante et la plante vous transmet son champ énergétique. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis sur des plantes et pour voir la transformation du champ énergétique suivant l'environnement. On mettait une plante verte comme celle-ci et à côté, on mettait des crevettes achetées au marché vivantes et on les plongeait dans l'eau bouillante. Et à ce moment-là, on faisait une photo justement du champ énergétique de la plante. Eh bien, le champ énergétique était complètement rétracté, comme si elle souffrait autant que les crevettes.
ce que vous pensez.
C'est fabuleux. Je connaissais pas du tout, hein, cette histoire. C'est quelque chose de très, très étonnant. Alors, cela dit, ce qui est en train de se passer aujourd'hui.
Oui.
L'expression est quand même intéressante. On parle de plant turn, comme on parlait autrefois de linguistique turn en matière de philosophie. C'est-à-dire le tournant des plantes.
D'accord.
C'est-à-dire que, si vous voulez, pendant très longtemps, on a considéré les plantes comme des semi-vivants. Hein. Elles font l'interface entre l'inorganique et l'organique. Et vous vous souvenez, dans l'Arche de Noé, on n'y met même pas les plantes.
D'accord.
Alors que, si vous voulez, sans plantes, les pauvres animaux de l'Arche creveraient de faim assez rapidement. On les a, en quelque sorte, mésestimées et penser qu'elles incarnaient une forme de vie au rabais, de sous-vie.
Oui, c'est un sujet à en penser. On l'a
oui,
pas pensé.
C'était pas intéressant, les plantes.
Plantes vertes.
On veut bien
quoi.
Voilà, avoir des relations avec les animaux, mais les plantes, vous rigolez. Or, aujourd'hui, vous avez même une sociologie, une anthropologie des plantes qui se développe. Et de même qu'on peut avoir, effectivement, entretenir une relation très forte avec le monde animal. Eh bien, alors dans une mesure différente, on peut entretenir aussi quelque chose de très fabuleux avec les plantes. Alors chez les Amérindiens, à nouveau, hein, on revient toujours à eux, bah, vous avez des plantes qui jouent un rôle absolument extraordinaire. Par exemple, bah, celle que tout le monde connaît, l'ayahuasca, cette fameuse plante hallucinogène, chez certains peuples donc d'Amazonie, c'est un esprit. Et le contact avec les esprits, les cérémonies religieuses, dans le rite, on va boire de l'ayahuasca. Et on pense que la plante vous visite et vous fait voir des choses, comme l'interprétation des rêves de tout à l'heure dont parlait Philippe Descola, bien, la plante peut vous dire quelque chose de votre avenir.
Mais on parle d'intelligence des plantes.
Alors oui, on parle d'intelligence des plantes. Cela dit, attention, il ne faut pas parler d'intelligence des plantes comme on peut parler de l'intelligence d'un animal.
On parle de conscience.
Ah, c'est allé un peu loin. Pour moi, si vous voulez, ce qui est très clair, c'est que la philosophie, la plante, ça n'a rien à voir avec celle d'un animal. Hein. L'animal, justement, c'est une intériorité. Alors, tout d'abord, une intériorité digestive. C'est une espèce de petit machin rond ou ovale, comme vous voulez. Mais il y a vraiment une intériorité. Les plantes, elles sont tout en surface.
C'est ça.
Et en verticalité. Hein. Et donc, attendre des plantes, si vous voulez, qu'elles aient une forme d'intelligence individualisée comme les animaux, moi, ça, je marche pas dedans. En revanche, pour moi, ce qui est très clair, c'est qu'il y a une forme d'intelligence écosystémique, oui, et qu'il y a des choses qui sont totalement incompréhensibles. Je vous donne un exemple que je vous en donne deux. Un que donne par exemple Francis Salet, et je crois que c'est la fleur d'Ophrys. Cette fleur a quelque chose de très très particulier, c'est-à-dire que pour sa propre sexualité, c'est-à-dire pour diffuser ses gamètes mâles, elle va attirer l'abeille, d'ailleurs d'une manière olfactive, mais aussi elle va attirer l'abeille en la mimant. C'est-à-dire la fleur va prendre la forme d'une abeille et l'insecte pollinisateur va s'y croire, il va copuler avec la fleur. Cela dit, il est leurré, il copule pas avec un autre insecte. Et ça, c'est déterminant pour la propre reproduction de la plante. Ça voudrait dire que la plante a quelque part l'idée de la forme même extérieure et dans sa totalité de l'animal pour pouvoir la reproduire.
C'est dingue.
C'est assez dingue. Je peux vous donner un autre exemple. Ça, c'est les travaux d'une chercheuse de Clermont-Ferrand qui s'appelle Catherine Lenne avec son équipe qui a montré comment, vous avez déjà remarqué, quand vous voyez un arbre dans une pente, il finit quand même par se redresser et par pousser à la verticale. Si un arbre a été couché par une tempête, au bout de quelques années, il va se redresser. Alors, il y a plusieurs mécanismes qui sont en cause. Le premier, c'est que il va fabriquer des cernes beaucoup plus épaisses qu'à la normale, asymétriques, pour pouvoir évidemment se redresser. Il faut quand même qu'il ait une espèce d'équivalent d'oreille interne. Là, on a vu que... D'oreille interne. On a vu que dans ces cellules, il y a des petits... Certaines de ces cellules, il y a des petits cristaux qui peuvent jouer exactement le même rôle. Mais quand vous avez donné ces possibilités-là à un modèle numérique, il pousse en S.
D'accord.
Et pour que le modèle, lui, parvienne à se redresser, eh bien, il faut que vous lui accordiez une autre capacité qui est celle de percevoir la masse de son corps dans l'espace.
La proprioception.
Voilà, la proprioception. Eh bien, les arbres sont capables de proprioception. Et pourtant, ils n'ont aucun organe ad hoc. Donc, en fait, il y a bien... c'était déjà ce que développait Bergson. Il y a bien, quelque part, une sorte d'intelligence dans le végétal. Mais il ne faut pas l'imaginer comme on peut imaginer une intelligence animale. Et dans ma collection, j'ai publié le livre de Nicolas Boulot, qui est un ami, qui est un mathématicien. Et son livre s'appelle « Ce que nature sait ». Et dans ce livre, alors, il établit de façon extrêmement sérieuse en quoi... Effectivement, et là on n'est plus à l'échelle des écosystèmes, mais on est à l'échelle de la nature vivante sur Terre, avec ses 3,5 milliards un peu plus d'histoire, comment cette nature développe une forme de savoir que nous n'atteindrons jamais.
C'est-à-dire.
En fait, ça renvoie à l'ADN et aux possibilités de l'ADN. Si vous considérez le nombre d'atomes dans l'univers visible, c'est 10 puissance 80. Bon, en fait, si vous prenez le premier chromosome humain et si vous regardez la combinatoire possible en termes d'ADN, vous avez 10 avec un exposant de plus de 10 millions. C'est-à-dire, c'est gigantissime. Eh bien, ce que montre notre ami Boulot, c'est que la nature elle-même, évidemment, dans ces 3 milliards 500 millions d'années, elle n'a pu éprouver qu'une infime partie des possibles de cette combinatoire. Et en fait, elle s'est constituée une espèce de savoir. Elle ne fait pas n'importe quoi. Elle ne laisse pas n'importe quoi.
Elle a choisi dans les combinatoires possibles.
D'une certaine manière, oui, parce qu'elle ne se met jamais en danger. En revanche, si vous donnez libre cours à des biologistes dans un labo de biologie de synthèse, ils vont fabriquer quelque chose que jamais la nature n'aurait fabriqué et par rapport à laquelle, comme elle l'est de manière générale par rapport à nos artefacts, elle va être démunie. Pom 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 pom.
Vous allez écouter, elle imite les oiseaux. Jusqu'à 15h, c'est la journée particulière du philosophe Dominique Bourg. En avril donc 2019, vous rendiez visite au berger Guilhem Roux sur sa ferme philosophique. Quelques semaines plus tard, vous conduisiez la liste Urgence écologie aux élections européennes. Il se trouve qu'en 2019, Dominique Bourg, le réchauffement climatique devient le sujet de l'année. Cette année-là, il y a eu des manifestations dans le monde entier à plusieurs reprises et particulièrement au mois de mars 2019 où les jeunes lycéens décident de descendre dans les rues dans le monde entier. C'était le 15 mars pour dénoncer l'inaction des adultes face à l'urgence climatique.
Ils sèchent leurs cours pour ne pas griller leur planète. Les lycéens en grève. À Poitiers, ils étaient près de 3000. Une marée de pancartes au slogan « Recyclé ».
On ne voit plus l'intérêt d'aller à l'école, d'aller étudier à l'université, si demain on ne va plus avoir de futur, si tel que le rythme de consommation, tel que le rythme de vie est maintenant.
Face à l'ampleur du mouvement, le ministre de l'Éducation avait proposé des débats, 2 heures d'échange au sein des établissements, inutiles selon les jeunes.
des débats dans les lycées comme ça à la dernière minute, c'est absolument pas propre. Ça montre qu'ils ont peur d'une mobilisation citoyenne qui fait des réclamations pertinentes et ils veulent faire croire que dans les lycées on discute de choses sérieuses alors que c'est pas le cas.
Comment vous entendez ces jeunes, Dominique Bourg, vous qui vous battez, qui êtes engagé dans le combat écologique depuis des années? On a l'impression que ce sont ces jeunes-là qui ont conscience de l'urgence.
Complètement. Alors, avant de revenir sur les jeunes, évidemment, j'appuie à fond. Hein. Petit contexte, la chose commence avec Greta Thunberg l'été 2018. Et pourquoi? Bien parce que l'été 2018, c'est un peu la première année hors norme, mais on en a trois qui se sont enchaînées. C'est-à-dire une année où, grosso modo, vous avez plus d'hiver, mais une saison tiède, plus d'été, mais une saison chaude. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se départit jamais d'un front de chaleur. Et vous pouvez avoir ce qui s'est passé en 2019, même dans un même pays, deux vagues caniculaires, une en fin juin et une en fin juillet, et vous avez un hémisphère nord qui reste en permanence chaud, et depuis lors, vous savez que par exemple, l'année 2020, oui, si on prend la moyenne de janvier à octobre, c'est une année presque aussi chaude, un peu moins, presque aussi chaude que la dernière année El Niño, ce mouvement des eaux de surface qui est déterminant. C'est-à-dire quand vous avez une année El Niño, c'est par définition une année plus chaude. Donc la dernière année plus chaude était 2016, mais attention, 2020, et là, le chiffre que je vous donne, c'était 1,2 degré, un peu plus, mais c'était de janvier à octobre. Or, le mois de novembre 2020 a été le plus chaud de tous les mois jamais enregistré. Et ce qui est important de bien comprendre, c'est que l'année 2020, c'est une année La Niña. C'est-à-dire, c'est le phénomène inverse d'El Niño. Donc, normalement, c'est une année froide. Voilà l'année qui aurait dû être la plus froide parmi les dernières années, qui sera peut-être aussi chaude, en tout cas, à peine moins que 2016. Et donc, ça, c'est assez inquiétant. Et ceux qui l'ont vraiment compris, ce sont effectivement les jeunes. Moi, j'habite Lausanne. On a un peu cette vision de la Suisse en France, c'est quand même pas un pays où, si vous voulez, les manifestations sont très fréquentes. Hein.
Non.
Bon, eh bien, à Lausanne, dès janvier, vous aviez une dizaine de milliers de jeunes lycéennes et lycéens qui étaient dans la rue. Alors en Suisse, si vous voulez, 10 000 personnes à Lausanne, c'est 1 million à Paris, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et donc, on a cette jeunesse qui se mobilise et on voit une partie de la société adulte qui commence à bouger, notamment la justice. Il y a eu plusieurs acquittements de activistes du climat en Suisse. En France, on a un peu le même phénomène. On voit que la justice à l'international, de toutes les institutions, c'est la seule qui commence à bouger. Évidemment, les politiques, eux, sont tout aussi désespérants. Mais la justice commence à bouger. Et pourquoi les jeunes sont ainsi? Ben, c'est très simple à comprendre. Moi, quand j'avais leur âge, le monde était ouvert. Et je pensais que je vivrais mieux que n'avaient vécu mes parents. Mes parents eux-mêmes en étaient persuadés. Aujourd'hui, c'est fini. Les modèles du service météo anglais nous disent que on a une chance très élevée de connaître déjà un 5 dès 2024-2025. Le modèle français de l'IPSL nous dit qu'au début de la décennie 2040, et ça c'est ce qui est déjà dans les tuyaux, on aura atteint les fameux plus 2 degrés. Quand le GIEC est créé en 88, le premier rapport c'est 90-91, imaginez les 2 degrés, c'était un scénario cauchemardesque de la fin du siècle. On l'aura en 2040, ce qui signifie que entre les tropiques, vous aurez de vastes régions qui connaîtront plusieurs journées, au moins, si ce n'est plus, dans l'année, où l'accumulation de chaleur et d'humidité fera que votre machine corporelle thermodynamique ne peut plus évacuer la chaleur de votre corps, qu'elle s'y accumule et que vous finissez par mourir en moins de 10 minutes. C'est ça que ça signifie. Ça, c'est à portée de main, c'est dans 20 ans. Vous entendez ça et vous avez 20 ans. Mais vous devriez exploser. C'est évident.
Bien sûr, ils devraient exploser. C'est difficile pour eux d'exploser, pour ces jeunes en ce moment, parce que là, en plus, on est en pleine pandémie. Ils sont atterrés.
Ils sont atterrés. Enfin, la partie la plus informée est vraiment atterrée. Alors, cela dit, on a le même problème avec la jeunesse que dans le reste de la population. C'est-à-dire qu'on a une sensibilité au climat qui varie un peu en fonction, je dirais, du degré de savoir et de culture. Et ça, c'est un vrai problème. On a vraiment, et on le voit aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez un pays qui est vraiment divisé en deux. Vous avez les 70 millions d'électeurs de Trump et vous avez les 77 millions d'électeurs de Biden. Les premiers font tout littéralement, pour flinguer les seconds. Pas de masque, se foutent de la Covid, Trump organise des meetings sans masque, etc., qui sont de véritables bouillons de culture. Ces gens-là nient le problème des climats, nient le problème des ressources, nient tout. Et si on les suit, ben c'est l'effondrement, de façon évidente. C'est ça qui est grave dans la société d'aujourd'hui. C'est que sur nos sujets-là, on a besoin d'un consensus. On voit que ça commence à s'élargir. Et on arrivera vraiment à agir quand vous aurez les deux tiers de la société qui voudra « Ok, banco, on y est maintenant, on arrête les âneries et on change vraiment ».
Alors moi justement, Dominique Bourg, en vous recevant, j'avais envie de pencher du côté positif en parlant de ces jeunes en 2019 et en parlant d'une autre alternative qui a été mise en place dans le nord de la France. C'était aussi en 2019, c'est dans la ville de Grand-Synthe où là, pour la première fois, on a lancé une coopérative de transition écologique et on a mis en place le revenu de transition écologique. Et ça, je trouvais que c'était plutôt un pas qui nous donnait de l'espoir.
Alors c'est vrai que Grande-Synthe, c'est une ville qui est née de l'industrie, née de la sidérurgie dans les années 50-60 avec l'implantation d'une usine sidérurgique qui était une usine d'État à l'époque qui employait quasi 10 000 salariés. Et donc voilà, cette ville, il y a eu un boom lié à l'arrivée de cette industrie. Et aujourd'hui, en fait, Usinor n'est plus, c'est ArcelorMittal. Et aujourd'hui, c'est à peine 3 000 salariés. Et donc on frôle les 29% de chômage sur la ville. On frôle les 40% de chômage chez les moins de 25 ans. Et c'est un peu finalement l'archétype du modèle d'hier, quoi. C'est-à-dire un modèle industriel qui produit aussi des inégalités. 30% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté sur la ville de Grande-Synthe. Donc la réflexion, c'est comment on engage une transition qui est à la fois sociale et aussi écologique. Et c'est vrai que le RTE, il nous semblait être un outil finalement au service de cette transition écologique et sociale, et même économique. Parce que l'enjeu, c'est bien de soutenir des initiatives d'habitants dans des démarches entrepreneuriales.
C'était un extrait du podcast Zoïne, Dominique Bourg.
Oui, c'est Jean-Christophe. Là.
C'est Jean-Christophe, vous le connaissez?
Oui, c'est le directeur de l'association Zoïne France. Alors, le revenu de transition écologique, c'est une idée conçue, promue, développée, elle le fait infiniment mieux que je ne saurais le faire moi-même par ma collègue et ami co-auteur, puisqu'on prépare ce livre ensemble qui sera publié à la rentrée, Primauté du vivant. C'est Sophie Svaton qui a développé cette idée de revenu de transition écologique. Elle a son nom au puf de livres sur ce sujet-là. Elle a créé la fondation Zoëgne avec le pendant l'association Zoëgne en France. Donc effectivement, il y a une première expérience qui est initiée à Grande-Synthe. La convention avait été signée avec le maire de l'époque, qui était Damien Carême. Et évidemment, depuis le départ de Damien, évidemment, les choses ne se passent pas comme elles auraient dû se passer parce qu'on a un maire successeur qui n'a qu'une envie, c'est de détruire ce que son prédécesseur a fait, ce qui est assez classique. Et vous avez une association création d'une expérience de revenus de transition écologique équivalente et pratiquement aussi avancée dans l'Aude, donc dans le sud de la France. Alors, il y a plusieurs émergence par-ci par-là. En Suisse aussi, il y a des choses qui démarrent avec ce revenu de transition. Alors, le revenu de transition écologique, ça n'a rien à voir avec le revenu de base inconditionnel ou le revenu d'existence. C'est au contraire un revenu qui est conditionné, mais pour pendant la transition, justement, pour développer tous les métiers, toutes les fonctions nouvelles, et puis évidemment qui sont inséparables de ces relations nouvelles à la nature que l'on doit bâtir. C'est ça la philosophie du revenu de transition écologique de Sophie.
Que vous reprenez cette idée de revenu de transition écologique, vous le reprenez dans votre livre Retour sur Terre, une des 35 propositions.
Et Sophie est un des 7 auteurs.
Voilà, c'est ça. Dans les 7 auteurs, il y a un agronome, un historien, un ethnologue, une philosophe en plus de vous, un biologiste, et vous avez essayé, c'est un document où vous proposez des solutions de sortie, de transition. En fait, Dominique Bourg, vous appelez à un changement de civilisation.
Ah oui, ça, si vous voulez, il se fera, il est en cours, le changement de civilisation.
Il est en cours.
Pour le moment, le problème, c'est qu'on a plutôt des politiques qui n'entendent rien et qui font tout pour le freiner, et même pour aller en quelque sorte dans l'autre sens. Mais quand on parlait tout à l'heure de nos relations vivantes, c'est pas quelque chose qui touche quelques chercheurs, c'est pas quelque chose qui touche quelques intellectuels, c'est quelque chose qui se diffuse dans la société. Il y a une espèce de vague de fond, et en fait, la société, une partie en tout cas de la société, est infiniment plus avancée que les prétendues élites qui cherche à la diriger et qui la dirige plutôt vers l'abîme. Alors effectivement, si on veut éviter, parce qu'on est dans une dynamique de catastrophe, si on veut éviter des chocs trop forts, il faudrait, dans la décennie, bien sûr, mettre sur pied des politiques publiques qui iraient radicalement dans un sens différent. La chose n'est pas simple. En tout cas, ce qui fait peur, si vous voulez, c'est que plus on reporte l'action en termes de climat, et moins elle devient possible, parce que plus elle devient radicale. D'ailleurs, en fait, même maintenant, l'Union européenne pratiquement reprend ça. Mais
reprend quoi ?
L'idée qu'il faudrait, dans la décennie qui vient, réduire à l'échelle mondiale les émissions de largement plus de la moitié, grosso modo de 60%, et en moyenne mondiale.
Mais même l'OMS dit qu'il faut absolument changer...
Mais tout le monde le dit. Si vous voulez, dès que vous avez des gens un peu intelligents, un peu libres, et qui ont un certain degré de connaissance et de sensibilité, ils le disent. Les seuls qui ne le disent pas, ce sont nos amis les politiques.
Et pourquoi ?
C'est désespérant. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Mais en tout cas, ils sont le relais de la partie de la société qui veut tout freiner. Et dans le cas, alors je vous dis, le cas américain, je vous en parlais tout à l'heure, il est assez, il est caricatural, mais il montre assez comment nos sociétés sur ce sujet-là se divisent entre une partie qui veut avancer et une partie qui ne veut rien comprendre, qui veut complètement freiner, avec effectivement très peu de, comment dire, de tierces solutions, en quelque sorte, entre les deux. Mais ce qui me remonte quand même un petit peu le moral, c'est que la partie qui peut avancer, j'ai vraiment l'impression, elle grignote, et elle finira par atteindre largement les deux tiers.
Vous y croyez? Vous avez un peu d'espoir?
Oui, alors j'essaie, et puis je vais pas, écoutez, quand je pense aux gens qui ont 20 ans, je tiens absolument à nourrir cet espoir, et eux, ils jouent un rôle aussi. Parce que c'est les générations montantes. C'est eux qui vont reconstruire le monde. Alors, pour eux, pour la partie de cette génération qui a compris, c'est une évidence. Et dans leur propre mode de vie, ils commencent vraiment à changer les choses. C'est assez étonnant.
Attendre que le ciel nous tombe dessus, que les anges ne nous parlent plus. Puis un jour, on se dit, le soleil s'est enfui. Attendre que le ciel nous sombre dessus, qu'on devienne triste et aigri. Puis un jour, on ne vit qu'à travers la nuit là, sur cette terre hostile. Va-t'en pouvoir grandir aussi fragile, quand le cœur est blessé. Moi je veux vivre sans regret, avant de m'effacer. Attendre que le ciel nous tombe dessus, pour comprendre qu'on a tout fait. Se mentir, se cacher, si longtemps je cherchais. Apprendre qu'elles sont réelles, ces choses invisibles. Le silence ne nous parle plus. Puis un jour, on se dit qu'on n'a pas vraiment vécu. Et le temps qui nous reste n'attend pas. Et tant que je respire, je reste là. Alors viens, on y va. Mais relève-toi, moi j'y crois. Toute cette peine ne te servira pas. Si on sortait dehors, même si je tords, j'ose suivre ma voie.
Journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Dominique Bourg, c'est la dernière partie de cette émission où je vais reprendre quelques éléments, encore d'autres éléments de l'année 2019. En 2019, par exemple, Angèle faisait un tabac, la chanteuse Angèle faisait un tabac avec son titre « Balance ton quoi ».
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter.
Vous parliez de la jeunesse, Dominique Bourg. Pour la plupart, les ados en tout cas adorent cette chanteuse et pas que les adolescents. Balance ton quoi pour Balance ton porc.
Ouais.
C'est cette génération MeToo. Mmh. Ça aussi, vous l'avez suivi de près ?
Ah bah oui, parce que moi, je suis né en 53. Et quand je suis né, si vous voulez, on était encore dans un monde relativement, totalement patriarcal. Et la génération qui est la mienne, est la première, c'est la mixité est arrivée dans les lycées, etc. Si vous voulez, dans les universités, l'équilibre des deux sexes était là, pas du côté des enseignants. Et puis petit à petit, on a vu les choses complètement changer. C'est-à-dire qu'anthropologiquement, si quelqu'un du 19e venait dans la société d'aujourd'hui, un mâle blanc
alpha,
bien sûr, par définition, totalement patriarcal, il serait quand même complètement époustouflé. Il partirait en courant. Alors, on est encore loin du compte, comme le rappelle la chanson. C'est un combat infini. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que même dans l'anthropologie, on commence à rectifier les choses. Vous avez vu ce papier publié dans une revue scientifique et qui disait qu'on a découvert, je crois, c'est dans au contrebas des Andes, une chasseuse du paléolithique. Et en tout cas, ce qu'on apprend avec ce qu'a été le néolithique, c'est que et celui qui a le mieux montré ça, c'est James Scott, notamment d'Homo domesticus, c'est que très probablement, le néolithique est une catastrophe totale. Alors, c'était une catastrophe sanitaire. Quand vous regardez le squelette d'une femme ou d'un homme du paléolithique, il est plus fort, plus gros, beaucoup moins de maladies, etc. Quand vous regardez celui d'une agricultrice ou d'un agriculteur du néolithique, le squelette est chétif. Il porte la marque de la souffrance, de la maladie, des os tallés, etc.
C'est Françoise Héritier qui a...
Oui, alors une des premières. C'était une catastrophe totale. Et c'est la domestication de certains êtres humains par d'autres, c'est la domestication des femmes par les hommes, c'est la domestication des animaux domestiques par les agriculteurs, c'est l'instauration d'un règne de violence et d'inéquité. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire, et ce qu'on doit faire dans la civilisation de l'avenir, c'est de sortir de tous ces aspects du néolithique. Une sacrée tâche, mais ça suffit à vous redonner le moral.
En 2019, Dominique Bourg, vous me donnez le moral. Jacques Chirac disparaissait le 26 septembre 2019.
Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre, elle souffre de mal-développement, au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril. Et nous en sommes tous responsables.
Vous connaissez ce discours, oui, Jacques Chirac,
c'est le
en 2002,
de Johannesburg,
au sommet de la Terre.
Voilà.
Vous l'avez rencontré, vous l'avez connu.
Alors, je ne peux pas dire que j'ai connu Chirac, je me suis retrouvé quelques fois avec lui dans le cadre de la commission Coppens. Et effectivement, quand je suis arrivé là-dedans, et par Nicolas Hulot, j'avais énormément de préjugés. Moi, j'étais comme un peu le type de gauche classique. Pour moi, Chirac, c'était la mitraillette en 68, et c'était une personnalité inculte. Et en fait, pas du tout. C'est un type qui a une culture immense. Effectivement, quand on va au Japon ou en Chine, l'image de Chirac est très grande, parce que c'est effectivement quelqu'un qui avait une connaissance des arts extrêmes orientaux, qui lui permettait même de remettre en doute une datation douteuse dans tel ou tel musée. Mais j'ai découvert, moi, quelqu'un qui avait une culture en matière de climat et de biodiversité qui était époustouflante. Et en général, quand on entend un homme politique parler d'environnement, c'est du flan. Non, là, je peux vous dire que Chirac, il croyait. Il croyait fermement. Alors, en même temps, c'est très intéressant parce que ça vous montre toute la complexité des jeux politiques. Chirac, c'est aussi la grotte d'Ouvéa. Pour le fondateur du musée des arts premiers, c'est quand même assez étonnant. Les Kanaks, ben non, les Kanaks, on devrait les regarder comme un bijou. Si vous voulez, ce sont notre peuple, enfin parmi les peuples premiers auxquels on peut être nous autres Français au contact. Donc voilà, il y a toutes les paradoxes, toute la complexité de l'humanité. Et elle est incarnée dans ce personnage. Voilà, qui a les deux facettes, mais il y avait une facette absolument admirable.
Alors pour finir cette émission, Dominique Bourg, je voulais vous faire écouter la voix d'un chaman. Je voulais que les esprits nous retrouvent un peu pour clore cette heure de radio.
Pour pouvoir parler avec la nature, il faut que je inhale cette poudre, la yakuana. Je rentre donc en contact avec les chapiris, ces esprits chamaniques qui ont leur maison à eux. Et ils m'invitent à rentrer, ils se rapprochent de moi, ils chantent, moi aussi je chante pour eux. On discute pour travailler ensemble, nous et les chapiris. Il y a plusieurs esprits différents avec lesquels je rentre en contact. Ils habitent tous la forêt, la terre-mère. Si besoin, si mon peuple a le besoin d'appeler les pluies, moi, nous, les chamans, nous pouvons effectivement parler aux pluies, aux éclairs. On peut aussi parler avec Utukara pour empêcher la chute du ciel sur nous.
C'était David Kopenawa.
Oui, c'est David Kopenawa, l'auteur justement de La Chute du Ciel, ce récit avec Bruce Albert. Et elle est magnifique. Et c'est un très grand monsieur.
C'est un très grand monsieur. Alors David Kopenawa, il est chef chaman et porte-parole de la communauté d'Amérindiens Yanomami du Brésil.
Du Brésil.
De la forêt amazonienne.
On est au nord, près de la frontière vénézuélienne. Et si j'ai le temps, pour vous montrer à quel point ce qu'il raconte, ça n'est pas du flan. La Chute du Ciel, c'est des entretiens avec Bruce Albert. Et là, dans ce texte-là, Dawi Kopenawa raconte comment ce sont les arbres qui font pleuvoir. Alors, si vous voulez, le fait que les forêts ont un rôle important vis-à-vis des pluies, on sait ça depuis les Grecs. Vous avez dans le Critias de Platon un magnifique passage qu'on cite souvent où il rappelle ces choses-là. On a compris, nous, en termes scientifiques, il y a très peu de temps, si vous prenez par exemple la forêt amazonienne, les vents dominants vont de l'Atlantique vers la cordillère des Andes. Si vous n'aviez pas la forêt et ces six cycles d'évapotranspiration, les pluies ne pénétrerait pas dans le fond du continent. Ça, c'est des choses qu'on a compris les dernières décennies. En revanche, ce qu'on vient de comprendre très très récemment, vous avez en ce moment une équipe de chercheurs qui sont en train d'essayer d'identifier les essences d'arbres qui envoient des aérosols qui transforment justement cette évapotranspiration en pluie. Mais David Kopenawa, il connaît ça. Il le dit dans le dialogue avec Bruce Albert. Et on peut donner d'autres exemples, si vous voulez. Il y a des choses que nous, on appréhende comme sous la forme d'un savoir scientifique, qui sont plus profonds et plus autre chose pour ces sages, mais qu'ils connaissaient.
Donc il y aurait
un savoir chamanique.
Un savoir chamanique, un savoir des esprits.
Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre?
Alors l'homme n'aurait plus la primauté du savoir.
En tout cas, ce qu'on va développer dans notre livre, justement avec Sophie Svaton, c'est... Alors, c'est un peu compliqué de dire ça, mais on pourra prendre ça avec Spinoza. Le fait, que, si vous voulez, que la pensée est une des facettes du monde, mais elle a autant de réalité que la réalité matérielle. Et c'est ce qui nous permet de comprendre ce qu'on a vu dans l'émission à plusieurs moments. C'est-à-dire des formes de savoir très différentes qui ne sont pas produites par des êtres humains. Je n'en dirai pas plus pour le moment.
Merci beaucoup Dominique Bourg d'avoir passé cette heure avec nous, c'était passionnant. Je rappelle donc deux livres, les deux derniers livres qui ont été édités au PUF. Retour sur Terre, 35 propositions et Le marché contre l'humanité. C'était une journée particulière, une émission préparée par Hugo Combe, à la programmation musicale Djoubaka, à la réalisation Flora Bernard et à la technique aujourd'hui Pierre Monteil. On se retrouve la semaine prochaine. Passez un bon week-end.